Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live. Intégral Euro.
Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Je l'ai dit.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus ce samedi 22 juin pour vivre ensemble une nouvelle soirée de foot, une nouvelle soirée de sport sur RMC jusqu'à 1h30 du matin. Vous le savez, c'est la promesse tous les soirs de l'Euro, tous les soirs de match. L'after live, l'after dans la foulée et la libre antenne de minuit et demi à 1h30. Dans un instant, direction Cologne pour notre gros match du soir qui est tout simplement le dernier de la deuxième journée de cette phase de poule de l'Euro. La Belgique doit se reprendre contre la Roumanie. Le coup d'envoi, c'est à 21h. Ce sera à vivre en intégralité, sans coupure, direction Cologne. Dans quelques secondes, retrouvez Jeannot Séguier pour les compos. On va revenir également, et je vous attends au 32-16, mes Portugais, sur la victoire du Portugal 3-0 contre la Turquie. Vous l'avez vécu sur RMC il y a quelques minutes. Est-ce que les Portugais ont fait enfin la grosse impression qu'on attendait d'eux? On vous attend au 32-16 et dans un instant, vous avez la parole sur RMC. D'ici un quart d'heure, les dernières nouvelles de l'équipe de France au lendemain du match nul face aux Pays-Bas 0-0, les nouvelles du jour de Mbappé et puis débat, et là aussi je vous attends au 32-16. Les problèmes offensifs sont-ils vraiment inquiétants pour cette équipe de France? On vous attend. Adrie et Lou sont là au standard ce soir. Et puis 20h30, on rentrera à fond dans l'avant-match de ce Belgique-Roumanie. Là aussi, n'hésitez pas, mes Belges, le 32-16, si vous voulez venir donner votre sentiment. Êtes-vous inquiet avant ce deuxième match pour les Belges contre la Roumanie? N'hésitez pas à venir participer à l'After Live. On est toujours, vous le savez, dans l'After en direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot pour vous accompagner ce soir. Coach Courbis est là. Salut mon Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Tout va bien Roland, encore une belle journée de foot.
Ça va, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer un chauffeur de taxi super sympa qui s'appelle Bouba. Bouba, on te salue, et qui est passionné de football et avec un petit penchant pour la Roumanie qu'il a impressionné à lui aussi.
Bouba le Roumain.
Ben voilà, non pas Bouba le Roumain, mais Bouba le sympa, ça c'est sûr.
20h03, juste avant d'aller à Cologne, je vous rappelle qu'on aura également du rugby ce soir. Qui retrouvera Toulouse la semaine prochaine en finale du top 14? Ce sera le Stade français ou l'UBB. La deuxième demi-finale, ce sera à vivre sur RMC à partir de 21h05. Tout est là, sans AP, sans pub. Et on le suivra tous ensemble. Allez, il est largement temps de prendre la direction de Cologne, où à 21h, le coup d'envoi de Belgique-Roumanie sera donné sous les yeux sur place de Jeannot Séguier. Salut mon Jeannot.
Bonsoir Thibault, salut coach.
Salut Jeannot.
Jeannot, l'ambiance dans un instant, mais d'abord les compos s'il te plaît.
Elle est tout simplement énorme. On en reparle dans quelques instants. La Belgique, avec trois changements, on en parlait dans l'après-midi avec coach tout à l'heure. Domenico Tedesco ne pouvait pas rester sur cette équipe belge déséquilibrée lors de la défaite face à la Slovaquie. Il a donc modifié trois joueurs et quasiment un par ligne. Alors Castils reste lui le gardien de but titulaire, celui de Wolfsburg, un des nombreux à évoluer ailleurs que dans le pays. Théâtre, le Rennais, titulaire sur le côté gauche. Castagne, le joueur de Fulham, titulaire sur le côté droit. Faes, avec le retour de Vertonghen du haut de ses 155 sélections, le milieu de terrain donc avec Tielemans à la place du Lyonnais Mangala pour accompagner Onana et De Bruyne avec le brassard de capitaine, qui sera lui derrière l'attaquant axial Lukaku sur le côté gauche, repositionné donc Doku, ça rappelle certaines choses aux supporters du Stade Rennais. Lukaku va être titulaire côté droit. C'est Trossard, le joueur d'Arsenal qui n'a pas été très bon contre la Slovaquie, qui va donc en payer les frais. Pour la Roumanie, Edouard Iordanescu n'effectue qu'un seul changement, et c'est au niveau de l'attaque. Coman, à ne pas confondre avec Kingsley Coman, c'est Miaïa, l'attaquant de Parme, qui sera sur le côté gauche. À droite, il y aura Mann, attaquant également du club italien de Parme. Dragouche, l'attaquant de Gaziantepspor, lui sera dans l'axe buteur contre l'Ukraine. On revient derrière avec le gardien Nitsa de Gaziantepspor. La défense ne change pas. Ratiu de Vallecano à droite, Bankou à gauche de l'Université Kayova et Burka avec Dragouchine pour la charnière. Là aussi, ça ne bouge pas. Razvan Marin, Marius Marin, ils sont pas frères. Et Stanchou, le capitaine. Voilà pour le milieu de terrain. Voilà pour les choix des deux sélectionneurs. L'arbitre est une vieille connaissance pour nous, les Français. C'est le Polonais Simons Marcignac.
Les Roumains, Jeannot, on les connaît moins que les Belges. Bon, ils ont quand même été impressionnants et ils ont une série de matchs impressionnantes. Mais l'équipe belge de
16 derniers matchs, une seule défaite.
Mais les Belges de ce soir, sincèrement, là, je trouve cette équipe équilibrée. Je dirais même, elle peut être, je pense, redoutable. Contrairement à l'autre fois.
Et ben rendez-vous à 20h30 avec vous tous au 32-16 pour débattre dans l'avant-match de ce Belgique-Roumanie. Ouais, tu disais l'ambiance exceptionnelle, Jeannot ?
Ah, c'est énorme. Alors là, vous arrivez qu'ils ne chantent plus, mais ça va revenir parce que ça va se remplir petit à petit. On est à 47 000 pour la contenance de ce stade, le Rhein Energy Stadion, en temps normal à Cologne, et donc le stade de Cologne pour ce championnat d'Europe. Je pense qu'on va être un peu plus de 25 000 Roumains. Et on va être autour de 15-18 000 Belges. La couleur des maillots va être très facile à repérer. Le jaune pour les Roumains, le rouge pour ceux qui ce que l'on surnomme les Diables Rouges. Dans l'occupation du stade pour l'instant, et encore une fois, il n'est pas encore rempli. Forte majorité de supporters roumains, et quand ils donnent de la voix, comme ils l'ont fait juste avant que vous n'arriviez à l'antenne pour cette soirée. C'était tout simplement impressionnant.
Et ça fera plaisir à Bouba, le chauffeur de Roland.
Absolument.
Merci Jeannot. À tout à l'heure, 20h30 pour l'avant-match avec vous tous au 32-16. N'hésitez pas, vous venez débattre avec coach dans l'After Live intégral Euro sur RMC. Mais à 20h07, prenons quelques minutes pour revenir sur le match que vous venez de suivre en intégralité sur RMC. La victoire du Portugal contre la Turquie 3-0. Deuxième victoire dans cet Euro pour les Portugais. Qualifiés d'ores et déjà après deux journées dans ce groupe F qui, on est donc à Portugal. Premier 6 points, Turquie deuxième 3 points, République tchèque et Géorgie troisième et quatrième avec 1 point. Et on a Nicolas, supporter portugais, qui est avec nous au 32-16. Salut Nicolas.
Salut les gars, ça va bien ?
Ouais, et toi ?
Salut Nicolas.
C'est pas Nicolas Villas ?
Eh ben écoute.
Hein ? C'est pas Nicolas Villas ? Non, c'est un autre Nicolas.
Non, c'est un autre Nicolas.
ton équipe d'aujourd'hui te rassure un peu, non ?
Alors, mon équipe d'aujourd'hui m'a rassuré, oui. Ça a été un match qu'on a dominé, à mes yeux, la tête et des épaules du début à la fin. Il y a eu 5 minutes d'absence en première mi-temps, mais c'est pas catastrophique. Le gros point aujourd'hui, où moi je voulais venir dessus, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais c'est CR7. L'attitude, le mental, il a joué pour l'équipe, il est venu en fait avec un leadership qui, moi, depuis le début de l'Euro, en fait, me fait vraiment plaisir. Il s'est adapté, il a peut-être plus les mêmes qualités physiques qu'avant, mais un mental en fait qui est au service du collectif, et ça m'a régalé tout le match en fait.
Est-ce que Roland, tu t'es dit aussi sur le deuxième but portugais qu'il y a quelques mois, quelques années, il aurait tiré au lieu de la décaler à Bruno, je crois qu'il était
tout seul. Mais dans la période actuelle où il a les pour et les contre, donc faire ce qu'il a fait. Une fois de plus, je trouve ça très intelligent.
Enfin, c'est le troisième but. Et au-delà de ça, au-delà de ce geste, Roland, t'es d'accord avec Nicolas, tu vois un Ronaldo qui, finalement, parce que ça a toujours été le débat, notamment au Portugal, qui peut s'intégrer dans cette équipe-là, malgré l'âge, malgré la personnalité.
Ben oui, parce que je pense qu'il y a ce que peut faire un footballeur sur le plan physique, sur le plan athlétique, sur le plan footballistique. Et ensuite, il y a sa présence. La présence de Ronaldo dans un vestiaire change beaucoup de choses. La présence de Ronaldo dans une équipe change beaucoup de choses par rapport aux adversaires, où il est obligé de leur poser des problèmes, et il est obligé de leur poser de l'inquiétude. Alors, par contre, la gestion de Ronaldo, si justement on n'ose pas lui dire à la 65e minute, bon allez, va prendre la douche avant les autres, parce que on compte aller jusqu'au bout de l'Euro, jusqu'en demi-finale et pourquoi pas en finale. Donc jouer avec Ronaldo pendant tout le match, compte tenu en plus du banc que peut avoir cette équipe de Portugal, je le dis en plaisantant, mais en plaisantant qu'un petit peu, quand je lis la liste qu'il y a sur le banc, je suis plus inquiet que des fois ce que je vois sur le terrain. Donc, qu'il puisse y avoir, allez, un Ronaldo remplacé en cours de match après les deux tiers de match, je pense que ça serait mieux pour tout le monde.
C'est vrai qu'aujourd'hui il a fait à nouveau tout le match. Nicolas, est-ce que aussi en termes de système, et on se souvient le match contre la République tchèque, il avait démarré à 3 derrière avec notamment Nuno Mendes dans l'axe. Aujourd'hui c'était un 4-3-3 plus classique. Est-ce que tu penses que ça
doit mieux?
Oui, c'est ça, ça ne doit pas bouger non plus, Nico.
En fait, pour moi, c'est notre système. En fait, on le pratique depuis des années. On a les automatismes qu'on n'a pas forcément eu en fait contre la République tchèque, et on l'a vu. On s'est fait surprendre. La réaction de l'équipe est bonne aussi. Effectivement, on parlait du banc, et oui, on a un banc qui est magnifique. Mais aujourd'hui, j'ai plus reconnu mon équipe. Et si tu veux, on parlait de CR7, et effectivement, est-ce qu'il peut finir les matchs, tous les matchs, je ne sais pas. Mais il y a un truc que j'ai remarqué aussi dans le match, et j'aurais bien aimé savoir si vous aussi, c'est effectivement par rapport à CR7, mais surtout Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Cancelo, où des fois aurait pu mettre la passe. Est-ce que c'est intentionnel de le faire ou pas? Mais ça fait plusieurs matchs où ça arrive, et je me demande si le problème va pas être est-ce que CR7 va tenir tous les matchs, mais est-ce que justement l'équipe va vouloir qu'il tienne aussi.
Oui, c'est difficile de répondre puisque je suis pas sûr qu'est ce problème là dans la réflexion des coéquipiers de Ronaldo. Par contre, que Ronaldo puisse sentir que chez quelques joueurs on trouve anormal qu'ils soient encore là, qu'ils soient là pour toutes les minutes d'un match, et c'est pour ça que cette passe, je dirais très intelligente, à son coéquipier, a démontré que c'était pas le Ronaldo qui ne pensait qu'une chose, marquer les buts avec un certain même égoïsme. Là, non, on a un Ronaldo que je trouve très sympa, souriant, et donc un coéquipier pratiquement exemplaire qui, en plus de ça, donne un petit peu une leçon à tous ses coéquipiers en leur disant j'espère que vous allez faire comme moi, d'être encore performant à 40 ans.
Et d'ailleurs, avec cette passe décisive, il est devenu lui qui aime les stats.
Attaquant, défenseur, c'est déjà un exploit, mais c'est quand même pour moi un plus gros exploit attaquant.
Il y a déjà Pep en plus.
Eh oui.
Meilleur passeur de l'histoire de l'Euro avec cette 7e passe décisive, lui qui est déjà le meilleur buteur de cette compétition avec 14 réalisations. Merci Nicolas, bientôt.
Merci à vous,
les gars. Bonne soirée. À très vite. Voilà. Le Portugal qui terminera cette phase de poule contre la Géorgie mercredi prochain à 21h. 20h13, dans un instant, les Bleus au programme, direction le camp de base de Paderborn avec nos suiveurs Loïc Braillet. Ça sera en direct d'Allemagne avec nous pour nous donner les dernières nouvelles de cette équipe de France, les dernières nouvelles de Mbappé. Et débat avec vous au 32-16. Les problèmes offensifs de ces Bleus sont-ils vraiment inquiétants? N'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16 et vous êtes en direct et sur RMC avec Coach Courbis. Vous êtes sur RMC, c'est l'After Live intégral Euro, 21h, Belgique, Roumanie. On se retrouve dans un instant sur RMC.
L'After Live intégral Euro,
Thibaut Giangrande.
Excellent début de samedi soir à tous. Il est 20h17, vous êtes sur RMC avec Coach Courbis. C'est une magnifique soirée de sport qu'on va vivre ensemble. Magnifique soirée de foot, bien évidemment, avec l'Euro. 21h, le dernier match de la deuxième journée de cette phase de poule entre la Belgique et la Roumanie. La Belgique qui n'a pas le droit à l'erreur. Dans une dizaine de minutes, on retourne à Cologne avec Jeannot Rességuet, avec vous tous au 32-16. Le rugby, c'est la deuxième demi-finale du top 14 entre le Stade Français et l'UBB. Tout ça sera ici en intégral. Sans pub en plus ce soir et sans besoin de zapper. Mais d'abord, l'équipe de France au programme. Les Bleus qui ont fait match nul 0-0 face aux Pays-Bas hier soir. Les Bleus premiers de leur groupe avec 4 points, ex aequo avec les Pays-Bas, et qui sont retournés dans leur camp de base à Paderborn où nous attend Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut Thibaut, salut tout le monde.
Salut Loïc.
Et Loïc, tu as eu la chance de voir aujourd'hui Kylian Mbappé jouer au football, ce qui n'a pas été le cas hier. Il a participé et a bien participé à un match d'entraînement.
Alors, pour être tout à fait précis, je n'ai pas vu, j'ai appris, parce que l'entraînement était à huis clos, mon cher Thibault. Donc, Kylian Mbappé a participé effectivement à l'intégralité de l'opposition face à la réserve de Paderborn. Ils avaient fait la même chose après le premier match face à l'Autriche. 2 fois 30 minutes, il a inscrit un doublé. Il a fait 2 passes décisives, plutôt en jambes, Kylian Mbappé. Il était évidemment avec son masque en conditions réelles de match. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Un bilan positif pour Kylian Kylian Mbappé. Alors les équipes étaient un peu mixées, hein. Il y avait des joueurs de l'équipe de France des deux côtés, donc il y a absolument rien à en tirer d'un point de vue tactique pour la suite, mais au moins c'était un vrai test d'un point de vue personnel aussi pour Kylian. On sait qu'il avait beaucoup poussé pour essayer de jouer quand même hier. Le staff a résisté à cette gentille pression de son capitaine pour le préserver tout le match hier, et il est probable, possible qu'il joue quelques minutes, voire davantage, mardi contre la Pologne pour ce troisième et dernier match de poule. Donc en tout cas, les voyants sont au vert pour Kylian Mbappé, malgré sa fracture du nez et donc ce petit handicap du port de masque, mais qu'il a parfaitement géré aujourd'hui durant son opposition.
Oui, parce que ce sera quand même un match à un jeu. L'enjeu, c'est de terminer premier, et on peut raconter ce qu'on veut, terminer premier sauf concours de circonstances, c'est quand même une très bonne chose pour justement avoir un adversaire un peu moins bon que ce qu'on pourrait avoir.
Et le fait que Mbappé ait joué, se soit donné, ait mis ses buts, bon, voilà, l'adversité n'est pas la même évidemment, mais Roland, ça c'est quand même une bonne indication, oui, une excellente nouvelle, quoi.
Je pense même qu'il aurait joué contre les Pays-Bas si le but des Pays-Bas avait été accordé. Donc je crois que tant que les Pays-Bas ne gagnent pas et ne mènent pas, je pense que Didier a voulu rester prudent avec Mbappé. Mais si les Pays-Bas avaient ouvert le score, ou si le but des Pays-Bas avait été accordé, ben je pense qu'il aurait terminé les 20 ou 25 dernières minutes. Parce que je le dis, je le répète, le masque peut gêner, le cartilage, ça peut être emmerdant, mais la blessure pour elle-même n'a rien à voir avec une gravité comme celle de Dupont pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est le cartilage qui est touché. Il y a rien de grave.
Et d'ailleurs, et juste pour terminer sur les infos du jour, les titulaires et Kingsley Coman sont restés aux soins aujourd'hui. L'accent a été mis sur la récupération. Hein. Ils sont rentrés tard dans la nuit. Donc voilà, le staff médical a pris en charge tout le monde. Récupération pour tout le groupe. En tout cas, les titulaires plus Coman, donc aujourd'hui à Paderborn.
Tu as pu être au courant un petit peu de Barcola s'il continuait à démontrer une certaine forme?
Écoute, on n'a pas eu trop de détails sur chaque joueur, mais Barcola a participé à l'opposition. Il avait été excellent, nous a-t-on raconté, après le premier match contre l'Autriche. Il avait mis deux buts d'ailleurs aussi lors de cette opposition. Ou trois, même, tu as raison, trois buts. Donc bon, lui, il est plein gaz. Hein. Il demande qu'à y aller, a priori. Donc c'est la décision ne se fera que dans la tête de Didier Deschamps. Il n'y a que lui qui peut trancher maintenant. Il n'y a aucun souci du côté de Barcola, c'est clair.
Et sachant d'ailleurs, Loïc, offensivement, c'est un peu le souci depuis le début de cet Euro pour l'équipe de France. La victoire 1-0 contre l'Autriche avec un but contre son camp d'un Autrichien. Le match nul 0-0. Bon, les débats, les reproches depuis hier soir commencent à monter sur cet aspect-là. Problèmes offensifs sont-ils vraiment inquiétants? On en débat avec vous au 32-16. Qu'est-ce qu'on en dit dans le staff des Bleus, Loïc?
Pour le moment, on veut pas dramatiser, on veut pas céder à la panique. En 12 ans de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, il y a déjà eu des périodes comme ça où on avait du mal à mettre des buts, où les schémas tactiques n'étaient pas forcément faits pour favoriser l'avalanche de buts et l'aspect offensif. Donc on veut pas paniquer, mais quand même, effectivement, si on prend en compte le match contre le Canada, ça fait trois matchs consécutifs que les Bleus ne marquent pas, et que là, face à la Pologne, ça serait bien de marquer. D'ailleurs, Didier Deschamps l'a dit lui-même hier en conférence de presse, à un moment donné, il faudra marquer un but pour gagner et pour continuer à vivre dans cet Euro. Donc voilà, c'est à l'esprit de tout le monde, c'est clair, c'est évident, on pense, notamment chez Antoine Griezmann aussi, qui a particulièrement été maladroit sur ces deux derniers matchs, que voilà, la roue va tourner, le ballon va finir par rentrer au fond des filets et que voilà, les pieds seront bien positionnés par rapport au cuir pour que ça aille au fond. Bon voilà, on attend d'avoir les choix, parce qu'ils vont être importants quand même, les choix de Deschamps pour ce match face à la Pologne. Qui il va préserver, qui il peut peut-être faire souffler, qui va rentrer pour essayer d'apporter du peps offensivement. C'est une préoccupation, mais pas de panique, tout est sous contrôle.
Milo est avec nous au 32-16. Salut Milo, bienvenue sur RMC.
Salut tout le monde.
Salut Milo. Ça va? Avec plaisir. Milo, est-ce que les soucis offensifs des Bleus là depuis quelques temps t'inquiètent?
Je sais pas que ça m'inquiète, c'est que normalement on a la France niveau ailier, niveau en attaque, c'est très complet. c'est très fort. Et moi, je déjà, pas revenir sur match face aux Pays-Bas, moi, j'ai pas compris qu'est-ce que Marcus Thuram fait en pointe. T'as des kings très communs. Bon, après, le souci médical, c'est autre chose, mais on a des coureurs de 100 mètres sur les côtés. Faut les utiliser, même s'ils sont carbonisés à la 60e. Et ben, tu mets Coman et derrière, on fait rentrer Barcola. Parce que moi, pour moi, Barcola, il a 20 Thuram dans chaque doigt de pied. Pour moi. Après, ça, c'est un choix. Après, je sais pas si on peut aller au-delà du fait que, bon, papa, il est copain avec le coach, etc.
Ah, c'est peut-être
ça,
un peu tôt. On a moins vu Barcola au niveau que Thuram quand même. Enfin, même si Thuram, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu et on
oui, a vraiment très bon. Mais moi, pour moi, Barcola, un an de professionnalisme hein, au football, il mange Thuram.
Roland, sur ce Barcola versus Thuram, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais ça, c'est. Et encore, comme je dis au standard, s'il y a que moi qui l'aurais dit, Thibaut, il y a beaucoup de gens qui le disent aujourd'hui, attends, dans les médias, la radio, sur les réseaux sociaux, Thuram en pointe, bon.
Oui, après.
Il faut savoir que Thuram à l'Inter, c'est 46 matchs, 15 buts.
Oui,
alors on fait l'équation, heureusement qu'il brille un peu aux côtés d'Otaro.
Ouais, c'est déjà beaucoup plus qu'en équipe de France. Mais c'est un système aussi qui est totalement différent. À l'Inter, ils sont vraiment deux devant, ce qui n'est jamais le cas en équipe de France. Même si je t'accorde le fait que Thuram en équipe de France, Roland, ça a rarement été une grande réussite quand même. Hein. Attends, regarde, laisse répondre Roland.
Ça dépend aussi de son utilisation. Et ça dépend aussi de réfléchir un petit peu à d'autres possibilités et faire de Thuram comme Colomani des joueurs jokers qui peuvent rentrer en fonction d'un résultat à la 60e minute pour apporter de la fraîcheur, pour apporter des accélérations. Mais si par exemple on a quand même pas compris ce qui m'étonnerait de la part de Didier, puisque déjà il réfléchit et il a des gens à côté et notamment
Guy Stéphane
qui arrive quand même un petit peu à réfléchir. Donc essayons de réfléchir ensemble. Le problème numéro un sur le plan offensif, le problème. Oui, le problème parce que il a peut-être un masque. C'est Mbappé. À partir du moment où tu n'as pas Mbappé, il faut arriver à trouver une solution, que ce soit collective, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les choix de joueurs. Bon, chacun ses goûts. Mais si on veut m'expliquer que c'était la meilleure solution pour remplacer l'absence d'Mbappé, avoir Thuram en pointe, Griezmann, deuxième attaquant d'un 4-4-2, Rabiot à gauche et Dembélé qui est plein de bonne volonté mais plein de maladresse aussi, eh bien on ne peut pas être d'accord. C'est ce qui fait la passion du football. Si par exemple à l'absence d'Mbappé et même à la présence d'Mbappé, ça on verra dans les semaines à venir, ben il n'y a pas un Barcola côté gauche qui met quand même la panique et qui peut même permuter un Giroud, ben peut-être même que pour 60 ou 65e minute, parce que si on m'explique là aussi que Giroud c'est un joker, il a tout sauf la possibilité d'être un joker, ni son âge, ni sa morphologie, ni ses gestes. Par contre, si tu as pour remplacer Mbappé qui regarde, allez, ses coéquipiers du banc, Barcola, Giroud, Griezmann en retrait, Dembélé ou Coman côté droit et qui se partagent le boulot, ben tiens, ce quatuor offensif qui fera peut-être oublier l'absence d'Mbappé, même si oublier Mbappé, oui, c'est quand même pas compliqué, et surtout, c'est quand même pas facile.
Et Mbappé qui devrait, on le comprend avec Loïc en direct d'Allemagne, qui devrait revenir et qui devrait être disponible assez vite. Je remercie Milo d'avoir été là. Bientôt Milo.
Non, mais attends, excuse-moi.
Merci beaucoup. Et Thibaut, un petit merci de m'avoir follow sur mon petit Instagram avec le Moïse Foot.
Merci à toi.
Ça vaut le coup d'œil, il y a des très bons
salut
maillots.
Milo. Coach. Il est sur Insta celui-là. Salut Milo, ciao.
Ouais, Roland. Non, je voulais te dire, là aussi, c'est une question de vision des choses. Chacun sa vision. Le football est passionnant pour ça aussi. Et je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, enfin, on s'en fout de quand c'était. Il y a une question qui s'est posée dans un débat donc, sur RMC. Donc. Si Mbappé rentre à la place de qui? Et la réponse, ça a été Thuram. Moi, je pensais que c'était une plaisanterie. C'est-à-dire que si Mbappé redevient donc possible titulaire de l'équipe de France, c'est pour remplacer Thuram dans l'organisation de l'autre fois. Non, l'organisation de l'autre fois, c'est tout simplement une organisation prudente de Didier. Point final. Mais il y a un potentiel offensif pour faire beaucoup mieux, bien évidemment.
Et toutes les infos en direct d'Allemagne sur RMC, rmcsport.fr, bien évidemment. Merci beaucoup, Loïc. Loïc Braillet, bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut, Loïc. À très vite. Loïc Braillet, au plus près des Bleus à Paderborn. Il est 20h29. Vous êtes sur RMC. C'est l'After Live Intégral Euro. Dans un instant, direction Cologne. Et on va rentrer totalement dans notre match. Le match du soir, la Belgique, qui doit se reprendre dans ce groupe où elle est dernière face à la Roumanie. On retrouve Jeannot Rességuet en direct de Cologne, 32-16, amis belges, si vous voulez venir partager votre inquiétude ou pas avant le coup d'envoi de cette rencontre qu'on vivra ensemble à partir de 21h. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live, Intégral Euro,
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC ce soir. Vous n'allez pas le regretter une fois de plus si vous aimez le sport, si vous aimez le foot. Le dernier match de la deuxième journée de la phase de poule de l'Euro, la Belgique dos au mur déjà ce soir affronte la Roumanie à 21h et le rugby ce soir avec la deuxième demi-finale du Top 14 à Bordeaux entre le Stade français et l'UBB. Coach Courbis est là, vous tous également sur YouTube, la chaîne de l'After. Merci d'être là déjà nombreux. @after-foot ou au 32-16 si vous voulez participer au débat. Jeannot Rességuet, on le retrouve à Cologne. L'ambiance qui était déjà forte tout à l'heure,
montée encore un peu plus. Des équipes sur les écrans géants avec notamment la Roumanie reprise en cœur par les 25 000 supporters roumains présents. Ça donne de la voix et ça donne des frissons tout simplement. On est d'accord qu'on en parlait en 2021 sur des ambiances énormes et notamment du côté de Budapest, hein, souvenez-vous le fameux Hongrie-France. Là sur ce championnat d'Europe on a des ambiances énormes avec des supporters qui se sont déplacés en masse. Je pense encore aux 40 000 Néerlandais présents hier à Leipzig, pas dans le stade hein, mais dans la ville. Et autant vous dire que tard après le match et tôt ce matin il y en avait encore qui chantaient, il y en avait encore qui faisaient la fête. Bon, d'autres décuvaient un petit peu, mais voilà, c'était plutôt sympa. Et c'est plutôt sympa et bon enfant ce que l'on peut voir dans les stades en Allemagne ici.
Alors dans ce groupe Jeannot est coach, la Belgique est dernière de ce groupe puisque hier l'Ukraine s'est imposée contre la Slovaquie et que les Belges avaient perdu leur premier match face aux Slovaques. Donc on a dans ce groupe virtuellement Roumanie 3 points, Ukraine 3 points, Slovaquie 3 points et Belgique 0 points. Roland, est-ce qu'il faut être inquiet pour la Belgique ce soir ?
Non, mais c'est sûr que c'est facile à lire avec trois adversaires à 3 points. Ça ferait quand même un groupe assez rare avec 4 équipes à 3 points après 2 matchs. Je trouve même que ça serait extraordinaire et pas impossible du tout parce que les Belges de ce soir, rien qu'à lire la composition d'équipe, ça ne va pas être du tout les mêmes Belges. Par contre, grand point d'interrogation pour moi de cette équipe de Roumanie, j'ai trouvé vraiment surprenante lors du premier match. Mais voir les Belges gagner ce soir, ça ne me paraît pas impossible du tout. Et pour répondre à ta question, eh oui, évidemment que si tu es Belge avec 0 point, tu es obligé d'être inquiet. Attends, il y a encore 2 matchs.
Et Jeannot, eux, les Belges, ne le sont pas. Les joueurs, en tout cas, le staff, on reste confiants quand même. Hein.
Alors, bon, je mets un bémol. Les joueurs et le staff restent confiants, oui. Les journalistes croisés tout à l'heure, on a discuté un petit peu. Eux, un petit peu moins confiants, même s'ils attendaient avec impatience la confirmation d'une composition d'équipe remaniée. On va en reparler, avec notamment 3 changements et un équilibre par ligne avec Théâtre, qui est un vrai latéral gauche plutôt que Carrasco. Que Tielemans sera meilleur que Mangala, et notamment dans la transmission, pour aider De Bruyne et donner des bons ballons à Lukaku, et que Luke Bakio sera bien meilleur que Trossard, malheureusement pour les Belges, parce que Trossard on espérait beaucoup après sa saison avec Arsenal, mais il est passé au travers contre la Slovaquie. Donc voilà, après quand tu discutes avec les supporters, ils se posent quand même des questions parce qu'ils ont du mal à avaler les choix de Tedesco. Mais encore une fois, cette défaite contre la Slovaquie, elle a mis fin à une série de 14 matchs sans défaite qui coïncidait avec l'arrivée de Tedesco, avec une invincibilité dans la phase éliminatoire, avec 13 buts marqués par Lukaku, et meilleure attaque avec le Portugal dans les éliminatoires. Donc quelque part, ils sont arrivés ici en Allemagne avec un peu de confiance, et peut-être un peu trop de confiance, puisqu'ils se sont fait piéger par la Slovaquie, mais qui elle-même a perdu contre l'Ukraine. Et encore une fois, je pense que ce qui se passe dans ce groupe E, c'est un petit peu à l'image de ce qui peut se passer dans tous les autres groupes à partir de demain, hein, puisque le Suisse-Allemagne, entre parenthèses, sera un match très intéressant aussi pour la qualification. Ça veut dire quelque part que pour les troisièmes places, pour les meilleurs troisièmes, on peut avoir des bonnes comme des très mauvaises surprises si jamais il y avait des défaites ou des nuls dans certains groupes. Et je pense à la France, notamment face à la Pologne. Il faut faire attention parce qu'avec 4 points, et s'il y en a beaucoup à 4 points ou à 3 points, dans le calcul global sur lequel je ne m'aventurerai pas, on peut avoir des surprises.
Roland, Jeannot, on a parlé Lukaku, ce joueur qui est à nouveau titulaire à la pointe de l'attaque belge. On parle beaucoup de la Belgique, la déception contre la Slovaquie, mais si Lukaku avait mis un dixième de ses occasions, un peu plus peut-être, on n'aurait pas du tout la même analyse ce soir. Il a la pression, mine de rien, quand même.
Évidemment, je comprends ce que tu veux dire. C'est quand même un joueur particulier qui est présent, qui rate, parce qu'il y a beaucoup de maladresse, mais bon, qui marque quand même, je crois, une dizaine de buts en 10 matchs.
Il en a mis 13 sur 22 en série, 32 en Serie A. Il en a mis 7 sur 13 en Europa League. Il est à 9 buts sur 11 en Coupe du Monde ou Championnat d'Europe marqué en phase de poule. Sur les 11 qu'il a marqué, il en a mis 9. 85 buts. Enfin, bon, ça va. C'est quand même quelqu'un qui met des buts, mais qui est passé au travers et qui a manqué de réalisme contre la Slovaquie. Est-ce qu'on peut lui incomber le fait qu'il est devenu maladroit? Non, faut pas abuser, faut pas exagérer. Mais par contre, ce soir, il faut qu'il retrouve le chemin défilé. Ouais, quand on parle de lui, on pense à Openda, c'est obligé. Mais Openda, on l'a vu plus dans un rôle de passeur. Et d'ailleurs, il donne ce fameux ballon de la 86e qui a donné discussion avec l'assistance vidéo. Donc peut-être que à réfléchir que dans le cours du match, pour reprendre une expression chère à coach Courvis, une association Openda-Lukaku peut être une association intéressante.
Alors oui, ça c'est sûr, mais pour en revenir à Lukaku, qu'il puisse donc être présent et sa présence athlétique servir à ses coéquipiers qui sont à côté de lui ou pas loin de lui, ça on peut penser qu'il en soit capable. Alors évidemment, après un peu plus d'adresse, un peu plus de précision pour être un peu plus efficace, c'est sûr que c'est indispensable pour l'équipe de Belgique et notamment ce soir. Ce soir, je ne sais pas combien d'occasions aura la Belgique, mais il faudra quand même être efficace parce que la Belgique ne peut pas se permettre de perdre ce soir.
Après Roland, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement dans cette équipe belge moins de talent qu'à l'époque? On est resté sur 2018 jusqu'à 2020.
On a toujours parlé de génération dorée, ils n'ont rien gagné.
Mais justement, oui.
Le mieux qu'ils aient fait, c'est une demi-finale de Coupe du Monde de 2018 contre la France.
Mais on parle d'une Belgique qui était à ce moment-là dominante, notamment dans le jeu, etc. Là, il y a.
Mais c'est comme quand on parlait de la génération dorée des Portugais, qui n'a rien gagné, qui a même perdu son championnat d'Europe à domicile.
Ce que je veux dire, c'est que justement, par rapport à cette équipe-là qui est arrivée jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, on a peut-être beaucoup moins de talent aujourd'hui. Les joueurs sont partis, d'autres sont vieillissants.
Ça peut tourner autour d'un joueur qui s'appelle tout simplement Hazard. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'il n'est plus là. Il y a quand même De Bruyne, même si De Bruyne a dépassé les 30 ans, mais il peut être encore performant. Et quand je dis, j'ai regardé la composition d'équipe présentée sur le papier le premier match, sincèrement, la Belgique ne m'impressionnait pas. Celle de ce soir, je la trouve équilibrée, cohérente. Je vois des gars sur les extérieurs. Je vois des attaquants. Je vois trois arrières centraux, même si celui de qui jouait à Reims, c'est là, comment il s'appelle, celui-là, Jeannot?
Faes.
Voilà. Faes. Je le trouve moyen, mais je le trouve pas mauvais. Mmh. Mais donc, ça fait quand même une équipe qui peut, pour moi, être redoutable, alors que celle du premier match.
À un moment donné, il va falloir qu'ils gagnent quelque chose pour qu'ils soient vraiment reconnus. Aujourd'hui, on les positionne comme des outsiders, pas comme des favoris.
Non, c'est sûr. 21h, le coup d'envoi de ce match. On aura le temps, match à nouveau sans pub, en intégralité sur RMC, de s'intéresser à cette Belgique, à cette équipe également de Roumanie, dont on va parler tout de suite dans les paris.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guy, notre expert en paris sportif. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Que disent les codes?
Elles disent la Belgique très largement favorite à 1,43, le nul 4,75. La Roumanie est à 8.
Wow.
Messieurs, je reste quand même plutôt confiant pour la Belgique. Je parle plus sur la thèse de l'accident qu'autre chose. La Belgique qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, parce qu'on ne sait jamais dans 7 euros, c'est coté à 2,05. Ça me plaît bien.
Roland.
Mais pas mal du tout, mais bon, je vois aussi la Suisse ne pas perdre
la Roumanie
ne pas perdre plus d'un but.
Donc la Roumanie avec qui part avec deux buts d'avance au coup d'envoi sur les paris.
Ouais.
Ça déjà c'est côté 1,68.
Eh ben je m'en contente.
Et ben c'est parfait.
Voilà. Merci Johan, on se retrouve à la mi-temps.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
21h, le coup d'envoi de ce Belgique-Roumanie sur RMC avec Jeannot Rességué. Dans quelques minutes, on retourne à Cologne avec Jeannot et avec vous tous pour suivre ce match, le dernier donc de cette deuxième journée de la phase de poule. On suivra ça en intégralité et je vous le disais tout à l'heure, ici sur RMC, sans zapper le rugby également, puisque match ô combien important, la deuxième demi-finale du top 14 entre le Stade français et l'UBB. Et c'est Nico Paolorsi qui est à Bordeaux. Salut Nico.
Salut les amis, salut à toutes et à tous.
Salut Nico. Bon, qui est le mieux parti pour rejoindre Toulouse en finale la semaine prochaine?
Oh, c'est compliqué comme question. Parce qu'il y a le Stade français qui a terminé deuxième de cette saison régulière, qui est tout ce que l'UBB déteste. Une équipe très solide devant. En plus, il pleut à Bordeaux, les conditions météo sont mauvaises. Donc voilà, une équipe qui aime le combat, qui n'est pas forcément la plus brillante du top 14. Hein, c'est la 13e attaque du top 14 sur la saison, le Stade français juste devant Oyonnax, imaginez. Et pourtant, malgré tout, ils ont réussi à terminer deuxième du championnat et à se qualifier directement pour ces demi-finales. C'est la première fois pour Paris depuis 2007 que le Stade français termine dans les deux premiers du championnat. C'est pour vous noter un petit peu cette saison extraordinaire que réussit le Stade français. Et face à eux, l'Union Bordeaux-Bègles, troisième de la saison régulière, qui a battu le Racing en barrage la semaine dernière, qui a l'avantage de recevoir à domicile au Matmut Atlantique. On va pas se mentir, hein, il y a quoi, 200 supporters parisiens, mais sinon le Matmut sera entièrement bordelais, et qui est l'opposé du Stade français. C'est une équipe brillante, 83 essais sur la saison, c'est la meilleure attaque derrière le Stade toulousain quand on recense le nombre d'essais inscrits. Il y a des joueurs qui sont électriques, capables de briser des défenses dans tous les sens. On pense à Damien Penaud, à Nicolas Deporter, à Yoram Moefana, à Louis Bielbiaré. Ce sont des joueurs qui sont en équipe de France, donc c'est très difficile franchement de dégager un favori ce soir. Ce qui est sûr, c'est que la météo et la pluie et le vent avantagent peut-être un petit peu le Stade français. Ça va être un match extrêmement serré dans une ambiance.
Mais là, on vient de voir les images justement de l'échauffement. J'ai vu deux trois passes le ballon. J'ai l'impression qu'il y a du savon autour. Ouais.
Ah bah ça glisse, hein, ça glisse. Il a plu toute la journée, coach. Franchement, le terrain est détrempé. Franchement, s'il avait fait sec, j'aurais dit Bordeaux à la maison, avec la dynamique et avec la ligne de 3 quarts, avantage UBB. Okay. Mais là, avec ces conditions-là,
rendez-vous à partir de 21h05 pour vivre cette rencontre, cette deuxième demi-finale entre le Stade français et l'UBB. À tout à l'heure, Nico. 20h46, vous êtes sur RMC, c'est l'After Live intégral Euro. Mais on est heureux de suivre cette rencontre. Belgique-Roumanie avec Roland Courbis, avec Florent Gautreau qui nous rejoint. C'est dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Live, intégral Euro,
Thibaut Giangrande.
Dans 10 minutes, le coup d'envoi de Belgique-Roumanie, le dernier match de la deuxième journée de la phase de poule de cet Euro. Dans ce groupe E, où la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie ont 3 points et la Belgique 0 points. Coach Courbis est là dans quelques instants. Florent Gautreau nous rejoint également pour suivre cette rencontre. Salut Flo.
Salut et salut coach. Salut.
Tout va bien.
Salut Flo.
Bah ouais, ça va.
Jeannot Rességué est en direct de Cologne pour nous faire vivre cette rencontre en intégralité, sans pub, sans coupure. Vous en avez pris l'habitude sur 7 euros le soir sur RMC. Et on suivra en même temps, ici, sans avoir besoin de zapper, la deuxième demi-finale du top 14 entre le Stade français et l'UBB avec Nicolas Paolorsi à Bordeaux. Mais tout de suite, C'est Cologne où l'on va retrouver Jeannot Rességué. Les deux équipes sont dans le tunnel, vont entrer sur la pelouse dans une ambiance à nouveau pour cet Euro, Jeannot, exceptionnel.
Oui, avec beaucoup de Roumains présents dans le stade. On est à plus de 25 000 et allez, un petit peu moins de 15 000 de supporters belges. En tout cas, les uns et les autres ont donné de la voix pendant la présentation des
dans
équipes dans quelques instants. Avec la sortie des équipes, les hymnes, on rappelle la compo, la Belgique avec trois changements par rapport à cette équipe qui a été battue par la Slovaquie. Castils, le gardien de Wolfsburg, reste dans le but. Le retour de Théat, le Rennais, latéral gauche. Vertonghen, le retour aussi avec Faes pour la défense, la charnière, ce qui nous fait donc au total 4 changements. Castagne sur le côté droit, milieu de terrain Tillmans à la place du Lyonnais Mangala pour accompagner De Bruyne et Onana, et donc dans le secteur offensif Doku est passé à gauche il jouait avec Théâtre du côté du Stade Rennais. Luke Bakio lui sera sur le côté droit, c'est Trossard qui paye les frais, et Lukaku sera l'attaquant de pointe pour la Belgique. Voilà les choix de Domenico Tedesco, l'entraîneur sélectionneur italien de la Belgique. Pour la Roumanie, Edouard Iordanescu n'a fait qu'un seul changement, c'est en attaque avec Mihalia qui a pris la place de Coman, il est avec l'équipe de France, Coman il est avec la Roumanie, les deux attaquants d'ailleurs de Parme sur les côtés, Mann et Mihalia pour accompagner Dragouche, avec le milieu de terrain Razvan Marin, Marius Varin et Stanciu le capitaine, derrière Ratiu à droite, Bankou à gauche, Burka avec Dragouchine, le jeune joueur de 22 ans des Spurs de Tottenham qui n'a pas beaucoup joué mais dont on dit le plus grand bien, et puis Nitsa le gardien de Gaziantepspor du haut de ses 36 ans. Voilà pour les compositions des équipes. Simons Marcignac, l'arbitre de la rencontre, arbitre polonais, dans quelques instants va libérer les 22 acteurs au sortir du tunnel pour le protocole et les hymnes.
Tiens, Flo qui vient de nous rejoindre, un mot sur les compos, enfin celle, la compo belge notamment, enfin cette équipe belge, on le disait, qui est virtuellement dernière de son groupe avec 0 point, qui a raté son entrée en lice. Est-ce que tu as une petite inquiétude pour cette équipe de Belgique?
Oui, l'inquiétude elle existait déjà, donc Tedesco a changé, donc ça va peut-être améliorer les choses. C'est la défense, c'est derrière. Parce que rien n'est parfait dans cette équipe, ni au milieu ni devant depuis le début, mais néanmoins derrière, par rapport à l'équipe, je vous ai entendu dans l'avant-match, tu parlais de la Belgique un peu qui a fait rêver, même si comme disait Jeannot, elle n'a rien gagné, mais qui était la très belle équipe. C'est vieillissant, donc là on remet du Vertonghen, il y avait Alder Vérel, il y avait quand même une défense qui avait une stature de l'expérience. C'est là qu'il galère en fait Tedesco, donc là il change, ok, il remet Théâtre, j'ai entendu, on l'a vu à Rennes effectivement sur le côté gauche. Mais Théâtre, avec Faes, Théâtre, on est sur des joueurs qu'on a vus en Ligue 1, qu'on n'a pas vu toujours excellents en Ligue 1. Donc, faut pas surévaluer.
Et ne perdons pas de vue, en plus, que Witzel est blessé, Meunier est blessé, et ces deux-là, pas blessés, seraient titulaires.
C'est ça,
c'est il n'est pas dans le rajeunissement, là.
Non, tout à fait. Cette équipe, en fait, qui est une sorte de mix d'hybride entre l'expérience et des nouveaux, le problème, c'est que les nouveaux n'ont pas le niveau. Honnêtement, des anciens, quand on parlait coach tout à l'heure, l'équipe un peu qui faisait rêver. Cette équipe-là, le coach, je t'entendais dire, la compo du premier match m'a pas fait rêver. Je t'avouerais que la compo du deuxième, c'est bien qu'il change, en tout cas, c'est bien qu'il tente quelque chose.
Je la trouve quand même nettement meilleure. Après, on verra sur le terrain ce que ça donne.
Et face à cette équipe roumaine qui a surpris, qui a collé 3-0 à l'Ukraine, qui a gagné ensuite, on va suivre le dernier match avec passion.
J'ai vu une invention, Carrasco arrière gauche.
Oui.
Bon, mais il y en a des inventions qui marchent, mais il y en a d'autres qui marchent pas.
Messieurs, 55, Jeannot. Sortie des équipes. Ouais. La présentation officielle face à la tribune officielle. Et maintenant, les hymnes. Et on va commencer tout de suite par l'hymne de la Roumanie. Roumanie, la main sur le cœur, beaucoup de concentration, beaucoup d'émotion aussi chez les Roumains. Et tout de suite, l'hymne de la Belgique.
Belgique, Roumanie. Le coup d'envoi dans un instant sur RMC. Un match à vivre sans interruption en intégralité avec Jeannot Ességuier depuis Cologne, avec Florent Gautreau, avec coach Corbis pour lancer cette soirée foot qui va durer comme tous les soirs jusqu'à 1h30 du matin. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live, intégral Euro.